Et je vais commencer par vous donner un petit feedback sur ce qui se passe là-bas, puisque j'en viens. Et pour vous parler des publics du jeu de plateau de science-fiction. En vous disant que, tout d'abord, on savait, en organisant cet événement, qu'on n'attirerait pas les foules. On l'a fait quand même, d'une part parce qu'on a un caractère associatif et qu'on n'est pas dans des logiques de chiffres, d'autre part parce que c'est un public qu'on aime chouchouter, les amateurs de science-fiction. On aime ces discussions passionnées entre deux tours de jeu, entre des joueurs experts qui connaissent aussi bien l'univers de référence du jeu que ses mécaniques. Donc là, on doit tourner à peu près à 150 joueurs et joueuses, et on en reparlera des joueuses. Et on s'estime satisfait, voilà, pour un événement monté assez rapidement. Voilà. Donc, un petit chiffre en termes de fréquentation, mais c'est pour dire aussi qu'on ne vient pas au jeu de science-fiction par hasard. C'est vraiment un genre auquel on veut s'intéresser. On s'intéresse d'abord avant de venir au jeu, je pense. On ne commence généralement pas le jeu de société par des jeux de science-fiction qui sont assez rares en termes de thématiques. Les thématiques les plus courantes vont aller du côté de la fantasy, l'heroic fantasy, le médiéval fantastique, qui communiquent beaucoup plus largement. On est encore dans un terme assez clivant dans la science-fiction, en fait. Les joueurs vont venir autant pour la thématique que pour les règles du jeu. Et ça, c'est un phénomène relativement rare. C'est-à-dire que les joueurs vont généralement s'intéresser à un bon gameplay, à une bonne mécanique de jeu, qu'importe le thème. Dans la science-fiction, on repère quelque chose de légèrement différent, c'est qu'on peut tomber sur des gens qui vont accrocher à un jeu qui, objectivement, est bancal, ou qui n'est pas le meilleur dans sa catégorie, mais ils vont accrocher par le thème. Et donc, on a ce trait-là qui est important en matière de jeu de SF. C'est tout de suite attrayant ou rédhibitoire par le thème, en fait. Certaines personnes ne vont pas vouloir jouer parce qu'il y a un vaisseau spatial sur la boîte de jeu. Donc il y a déjà un mouvement de recul. D'autres vont au contraire s'avancer vers la boîte parce qu'il y a un vaisseau. Et encore une fois, qu'importe la valeur du jeu. Je parlais du clivage homme-femme. Donc le jeu s'est démocratisé, c'est une bonne chose, et il a aussi gagné le cœur de ces dames, de plus en plus, qu'on voit autour des tables de jeu. Donc, l'effet de cette démocratisation fait aussi qu'il y a aussi plus de joueuses sur ces jeux-là. Et donc là, le ratio, même s'il est très largement en faveur des hommes, voilà, on doit être à une trentaine de femmes, et on s'estime heureux. Je vais peut-être.
Est-ce que tu as un mot?
Oui.
Bonjour. Oui, c'est marrant comme en t'écoutant parler, je pense finalement que ce sont des thématiques très proches de celles de la littérature de science-fiction en général. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des personnes qui vont être attirées par un livre de SF parce qu'il y a un vaisseau dessus, ou d'autres qui vont être, au contraire, repoussées par ce livre parce qu'il y a un vaisseau dessus. Et en termes de proportion, de répartition du lectorat, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Puisque la science-fiction est majoritairement lue par des hommes, on est de l'ordre de deux tiers hommes, un tiers femmes. La fantasy, on est plus moitié-moitié. Et en revanche, ça ne vous surprendra peut-être pas, mais le fantastique attire plus les jeunes, plus les femmes.
Et je vais peut-être laisser voilà, rebondir.
Bah, peut-être se présenter déjà, rapidement.
Donc, Julien Lebroc, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le jeu de rôle. Donc, moi, j'interviendrai essentiellement sur ce loisir-là. Je connais très, très peu les jeux de plateau. Donc, j'ai travaillé pour des éditeurs différents, comme le 7e Cercle, le Sans Détour, John Doe, sur des jeux de science-fiction, mais qui sont, je reviendrai dessus tout à l'heure, j'espère, un peu plus uchronique, quoi, assez peu futuriste. Et puis depuis 2 ans, je commence aussi à écrire un peu plus dans la littérature classique, pour le coup. Enfin, la littérature populaire, quoi, plus le jeu de rôle. Et il y a aussi une petite part de science-fiction sur certains de mes textes.
Donc, bonjour, je suis Frédéric Veil. J'ai fondé des éditions Multisim il y a 20 ans. et je suis auteur donc de Nephilim, entre autres, et d'autres jeux de rôle. Et depuis 15 ans, je m'occupe des éditions Mnemos, qui est spécialisée dans la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Et par ailleurs, j'ai une activité de producteur dans le jeu vidéo, donc un secteur que je connais un peu.
Moi, je suis illustrateur. Ça va plus vite.
Encyclopédie Galactique, il faut dire plus.
Oui, j'ai participé à l'Encyclopédie Galactique.
Ouais.
Qui est un des plus grands jeux de. Enfin, sinon, le plus grand jeu de science-fiction en France. On avait eu le jeu Méga dans les années 80, qui était un peu tiré. Pardon, alors David Camus, je suis auteur, traducteur, j'étais directeur de collection d'édition Pocket, spécialisé des littérateurs de l'imaginaire et compagnie. Pour revenir sur l'Encyclopédie Galactique, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il s'agit d'un jeu qui avait été publié il y a quoi maintenant 25 ans, j'ai un peu peur. Là.
Oui, c'est ça.
Oui, ça doit être il y a 25 ans par les éditions Robert Laffont. Donc, a priori, ça n'est pas un éditeur de jeux traditionnels. Et c'est vrai que c'est un jeu qui avait fait rêver beaucoup de monde. C'est un jeu de François Nedelec, donc illustré par Manchu, notamment à cause de la qualité-valeur des illustrations qui vraiment étaient absolument formidables. Il y a eu des scénarios, une mécanique de jeu, etc. Moi, je trouve qu'il y a une thématique qui est très intéressante, c'est celle, on en avait parlé rapidement hier, mais qui tend à distinguer, si vous voulez, le gameplay, c'est-à-dire le système de règles, et l'univers dans lequel on joue. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des gens qui vont jouer à Star Wars, jeu de rôle, hein, de science-fiction, Star Wars, parce que c'est Star Wars, mais sans trop s'interroger sur le gameplay, alors que peut-être que d'autres mécaniques de jeu... par ailleurs, pourraient les intéresser plus, mais les personnes n'iront pas voir, même si c'est de la SF. Je pense qu'il y a des jeux, par exemple, de SF qui étaient absolument extraordinaires dans les années 80, qui s'appellent, par exemple, Jorune. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, et pareil, c'est un jeu qui avait beaucoup marqué les esprits, encore une fois, à cause de la qualité des illustrations, il y aurait peut-être là aussi beaucoup à dire, mais qui n'avait pas vraiment pris, peut-être parce que le système ne l'emportait pas. Pour ce qui est de la mécanique de jeu, je pense à d'autres jeux. Alors pareil, je m'adresse aux vieux, dont je fais partie. Hein. Des jeux comme Space Opera, si vous avez vu ces choses-là, ou les trucs Traveler, où il y avait des systèmes de règles plus ou moins compliqués, qui tendaient en gros pour la création des personnages à tenir compte de la gravité de la planète sur laquelle vous étiez né, etc. Calculer d'une sorte de choses. Enfin, en passé, je ne sais pas combien d'heures à créer un personnage, et les combats étaient. La plupart des actions, finalement, étaient assez difficiles à résoudre. Bon.
Non, je ne sais pas par quel bout aborder la question inaugurale de cette table ronde. Comment faire un bon jeu de science-fiction, c'est ça.
Oui, mais aujourd'hui, tu as la problématique aujourd'hui. Alors, je me suis dit finalement, comme on parlait aussi des livres, est-ce que finalement les problèmes qui se posent aujourd'hui à la création d'un jeu de rôle de SF,
tu m'enlèves ce que je voulais dire,
c'est exactement aujourd'hui à la littérature de SF.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, David, c'est-à-dire que pour moi la problématique est, pour l'expliciter un peu, la problématique est la même, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait de la bonne science-fiction avant même de qu'est-ce qui fait un bon jeu. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens en science-fiction. C'est une question très importante qui se pose pour la littérature, où on sait tous que les livres de science-fiction ont du mal à trouver leur public, ont du mal à trouver des œuvres fondamentalement originales. Il y en a, hein, je ne dis pas, mais c'est compliqué. Et il y a effectivement cette séparation sexuée aussi de la science-fiction qui a quand même tendance à s'atténuer fortement. Bon, il y a plusieurs raisons. Hein. Il y a le fait que la science-fiction se répand partout, c'est-à-dire qu'elle est très présente au cinéma. Il ne faut jamais oublier que les hits de cinéma depuis 30 ans, ce sont les films de science-fiction qui les font. Et surtout, elle est dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo est un territoire extrêmement important de création de la science-fiction. Troisième point qui, pour moi, me concerne, enfin, auquel je suis beaucoup plus sensible, c'est que je pense que nous sommes maintenant dans un monde de science-fiction en permanence. C'est-à-dire que tous les jours, nous levons, nous avons une information. Hier encore, je lisais, excusez-moi, le supplément, j'ai fait une infamie, le supplément du Parisien qui sort tous les week-ends, je ne sais plus comment il s'appelle, là. Et il y avait une image extraordinaire de tours qui capturent la glace dans l'Himalaya. Et c'est une image de science-fiction. Moi, j'aurais vu ça il y a 20 ans, quand mon premier amour de littérature, c'est la science-fiction. J'ai commencé par Dune, ça a changé ma vie, à tel point que j'en ai fait mon métier, mais quand j'ai vu ces tours, c'était exactement ce dont je rêvais il y a 20 ans. Sauf que le projet, il est pour 3 ans, il va être fait, c'est des architectes chinois qui le font. Donc là, on a aussi une proximité permanente de la science-fiction dans notre vie quotidienne, les objets que nous utilisons aujourd'hui, les façons dont la manière dont la politique se passe, le cyberpunk a en partie très fortement ouvert des brèches il y a 20 ans dans la réalité. Et on y est, pas tout, hein, bien sûr, mais on y est. la façon dont le Megacorp agissent dans le monde, etc. Donc il y a une proximité très forte. Donc faire un bon jeu de science-fiction, je pense que c'est devenu un vrai challenge. Je pense que c'est devenu un vrai challenge.
Et de même que faire un bon livre de SF, toujours.
Exactement.
Peut-être que la spécificité de la SF, c'est d'être un genre qui est contraint par le temps. C'est-à-dire que comme il y a malgré tout cette ambition d'anticiper sur ce qu'est l'avenir, par définition, j'allais dire, si vraiment cette ambition elle est présente et s'il n'y a que ça dans le livre, il y a de fortes chances pour que le temps passant, finalement, le livre perde un peu de la valeur puisqu'il va être démenti par le temps. Quand on pense à 2001, l'Odyssée de l'espace, 2001 maintenant c'est notre passé, mais finalement l'espace n'est pas du tout la manière dont on l'appréhende, n'a rien à voir avec la façon dont on l'appréhendait en 68, 69. Donc ça c'est toujours quelque chose de très délicat. Par ailleurs, pour revenir très très rapidement aux histoires des thématiques abordées par les gens, c'est vrai que autant l'espace faisait rêver dans les années 80 et on pouvait rêver au space opéra, autant c'est des choses qui aujourd'hui, je dirais, c'est une question de vraisemblance, c'est-à-dire qu'on a plus de mal à y croire, sauf dans le cas éventuellement Star Wars, mais Star Wars finalement est peut-être aussi plus proche de la fantasy que de la SF, on en reparlera. En revanche, les courants qui apparaissent de manière plus manifeste sont notamment des courants dits dystopiques ou de post-apocalyptiques. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux, notamment je pense aux jeux des éditions Icar ou des choses comme ça, ou que ce soit, bon, je pense à un jeu par Anteas ou Vermine, enfin des jeux, si vous voulez, où l'univers est noir, l'univers est sombre. Et c'est une science-fiction où on est moins à sillonner l'espace pour essayer d'aller à la rencontre d'autres races que pour essayer tout simplement sur notre Terre de survivre.
On pourrait rajouter aussi en famille de jeux de SF dans ce type d'univers. Il y a ces derniers temps pas mal de jeux de SF uchroniques qui s'appuient sur le patrimoine d'auteurs anciens ou qui partent du principe qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un glissement de l'histoire, il y a une situation fictionnelle et ça a changé les choses, quoi.
Ça, on l'avait déjà, il y a Space 1889, là, qu'on peut voir d'ailleurs dans l'exposition. Alors, je ne sais pas exactement de quand date le jeu, ça se trouve, c'est 1989, bon, je ne sais pas trop.
C'est ça.
Ah, c'est 1989 c'est en plus, d'accord. Bon, donc, effectivement, on imaginait que sous la reine Victoria, les Anglais allaient coloniser la planète Mars. Il y avait un côté un peu rétro-futur qui était marrant.
Je voulais réagir sur le côté, sur le succès, justement, des films de science-fiction et qui peuvent, en fait, tout est affaire de médias et en termes de jeux de société, de jeux de plateau, vous n'aurez pas la puissance évocatrice. Vous n'aurez pas la même puissance évocatrice avec ce que propose un jeu de plateau qu'avec évidemment ce qu'on peut vous proposer dans une salle de cinéma. Ce qui fait que vous aurez affaire, comme dans beaucoup de jeux, à des cubes en bois, à des dés, à du matériel finalement qui, d'un thème à l'autre, est le même. Tout va jouer au niveau de l'illustration, éventuellement du type de figurine que vous pouvez avoir, mais c'est aussi la raison pour laquelle on a très vite, dans des univers beaucoup plus visuels, dans des médias beaucoup plus visuels, comme le jeu vidéo, la science-fiction a percé et a fait des hits aussi, beaucoup plus facilement.
Et entre le jeu de plateau et le cinéma, il y a quand même le jeu de rôle qui se positionne un peu entre les deux, je trouve, c'est pas qu'à faire de matériel et il va y avoir pas forcément d'éléments visuels, mais le talent du meneur de jeu, l'ambiance qu'il peut se mettre avec un fond musical éventuellement pour vraiment transporter les joueurs dans l'ambiance.
Là, il y a un jeu qui vient de sortir, je vais me tromper sur le nom, mais je crois que c'est X-Wing ou je sais pas trop quoi, un jeu Star Wars, quelqu'un me corrigera certainement. Enfin, j'ai vu les boîtes, je me dis, tiens, si j'avais eu ce truc-là il y a 20 ans, ça m'aurait certainement amusé. Mais ce sont des jeux, de guerre, de stratégie, à base de figurines, des jeux de simulation de combat aérien entre vaisseaux, donc qui reste Star Wars. Et les vaisseaux sont très 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 bien faits, c'est presque des petits jouets.
Ils sont mignons. Ouais.
Ah, je voudrais juste réagir à ce que tu viens de dire sur toutes les affaires militaires. Je ne crois pas. Moi, je suis assez opposé à ce type de discours. Je pense qu'il y a des œuvres qui sont très importantes et qui ne sont pas diffusées et qui changent à tout jamais le regard qu'on a sur un secteur. Si on prend par exemple le travail de Craig Egan, qui est un écrivain que j'aime énormément, c'est quelqu'un qui, pour moi, pense, c'est vraiment un des auteurs qui est le plus proche de ce qui est en train de se passer en ce moment avec la révolution informatique, entre autres, mais il a étudié la biologie, etc. Et Craig Egan, ses textes ne sont pas extrêmement lus, l'existence de ces textes change quand même globalement la façon dont on écrit la science-fiction après. Donc, et ça, des exemples comme ça, on pourrait en avoir des dizaines. Donc je pense que ce n'est pas qu'une question de médias, c'est une question de représentation, c'est une question aussi de plaisir. Moi, je crois surtout que la science-fiction est une forme d'utopie, de rêve permanent. Et pour moi, la science-fiction, ça a été Ce n'est plus maintenant, pour des questions que j'ai rapidement posées là, qui sont ces questions de fait que nous vivons dans une science-fiction. La science-fiction, c'était vraiment, on va dire, la non-pensée ou l'onérisme d'une société technologique. Et en cela, elle nous aide à imaginer, cauchemarder nos futurs et notre présent d'une société qui se mute, qui se transforme par la technologie. Aujourd'hui, on est dans d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la science-fiction quand on joue avec des jeux de science-fiction? En fait, on fait de la philosophie, tout connement. C'est-à-dire qu'on quand on teste qu'est-ce que c'est, de manière ludique, qu'est-ce que peut être notre avenir. Donc on réfléchit à des questions importantes, on s'amuse, mais en fait, au fond de nous, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la science-fiction? C'est qu'on en... Il y a l'autre partie qui est pour moi très importante, et on n'a pas entendu Manchus, je le regrette, c'est qu'on rêve, et il y a une forme de poésie très forte dans la science-fiction qu'on ne retrouve pas tellement ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que les films de science-fiction fonctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau que de regarder un fond de ciel galactique avec la galaxie qui tourne, avec les vaisseaux spatiaux qui passent derrière. Battlestar Galactica, la série, par exemple, pour moi, est un chef-d'œuvre, parce qu'il y a des scènes comme ça, de muettes, de batailles, où on voit un des pilotes dérivé dans l'espace en train de mourir, et il y a une bataille de fond. Alors, cette scène m'a marqué à vie, parce qu'elle exprime pour moi, elle concentre ce que la science-fiction peut offrir comme poésie de l'univers. Et ça, je trouve que c'est une fonction fondamentale de la science-fiction. Qu'on joue à un jeu de plateau, donc un bon jeu de plateau, il a cette représentation-là, un bon jeu de rôle, il est capable de générer en nous ces imaginaires-là. Un bon livre, c'est la même chose, et un film, il la représente. Donc, média, pour moi, donc la science-fiction est vraiment quelque chose qui nous sert à aussi rêver. Aussi. Et là, c'est clair que la force de l'image, l'imaginaire, est extrêmement importante.
Pour le jeu de société, je précise ma réflexion. En fait, voilà, je rejoins globalement la vie. C'était simplement l'idée de séparer le matériel de la logique de jeu et de l'expérience du joueur. Le matériel que vous pourrez trouver dans un jeu de science-fiction, illustration mise à part, est le même que celui que vous pourrez trouver dans d'autres jeux. Donc la distinction ne va pas se passer à ce niveau-là. Au niveau de l'expérience de jeu, et je reprends l'exemple de Battlestar Galactica, donc qui a plusieurs adaptations en jeu plateau, une assez ancienne qui n'est pas connue du tout, et dont je reparlerai. Mais la plus récente essaye vraiment de retransmettre ce qui fait le cœur de la série, c'est-à-dire les décisions tendues qui s'enchaînent très rapidement, le sentiment de paranoïa à cause de la présence de joueurs si longs qui vont jouer contre les autres, secrètement, plus ou moins. Et tout ça retransmit idéalement l'atmosphère de la série, au point qu'on peut commencer à jouer par Battlestar Galactica avant de découvrir la série, sans que ça pose problème, alors que dans beaucoup d'univers de jeux à licence, ça spoil.
Ah oui, ça spoil, oui. Ça c'est sûr.
Mais ce que je veux dire, c'est que l'expérience est tellement riche en termes de jeu, est tellement exceptionnelle, que c'est un excellent sas d'entrée, pour le coup, dans la série.
C'est que ça joue peut-être avec des codes qui sont universels, en fait. Quoi. Donc, moi, je sais que c'est exactement comme ça que j'ai découvert, c'est-à-dire j'ai joué au jeu de plateau avant de découvrir la série. Et bon, finalement, enfin, je ne sais pas quel jeu c'était, mais c'était un huis clos dans ce vaisseau spatial qu'il faut gérer, sachant qu'il y a un traître parmi nous. Ça aurait pu être dans un bateau pirate, ça aurait pu être... voilà, quoi, c'est...
Et peut-être pour rebondir sur justement ces logiques de jeu, en fait, les thématiques, on a tendance à séparer les thématiques et le gameplay quand on parle de jeu. Et en fait, alors si certains d'entre vous sont allés voir l'exposition, vous pouvez voir des jeux assez anciens, d'autres plus récents. Il faut voir que en termes de mécanique de jeu, de tradition ludique, le jeu de société a sa propre histoire. De l'autre côté, la science-fiction a sa propre histoire. Et on voit très peu, en matière de jeux de plateau, d'influence du gameplay sur le thème de la science-fiction ou du thème de la science-fiction sur le gameplay. Sauf dans de très rares cas, comme par exemple l'exemple de Battlestar Galactica. Ce que je veux dire, je vais prendre des exemples, c'est que quand vous jouez à un jeu des années 60 qui s'appelle Tintin et Milou vers la Lune, vous allez jouer à un jeu de parcours comme on en trouve des centaines à l'époque. C'est quasiment un paradigme, le jeu de parcours en matière de jeux de société. Paradigme qui aujourd'hui est complètement dépassé, qui a été revisité avec succès par des auteurs, rafraîchi, mais globalement, il y a peu d'auteurs qui se risqueraient aujourd'hui à sortir un jeu de parcours, parce qu'on a là, on repense aux jeux de loi, à ces choses qui nous hantent, les soirées avec grand-mère, voilà. Et donc, bon, les game designers contemporains ne vont plus sur ces mécaniques de jeu. En revanche, des mécaniques plus récentes, comme le deck building, donc la construction de son paquet de cartes progressivement au cours de la partie, ou les jeux semi-coopératifs, qui sont plutôt tendance en ce moment, voilà, vont se retrouver dans des jeux de science-fiction qui sortent depuis quelques années. Voilà.
Non, ce qu'on peut, pour peut-être compléter ce que tu viens de dire, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a quand même des endroits où le background et le gameplay se rejoignent. Donc, si on prend par exemple Halo, qui est un des grands jeux de vidéo de science-fiction, on voit bien que Halo, en fait, a pompé son imaginaire et son décor sur Ringworld, en fait, qui est pareil, une grande saga de science-fiction de Larry Niven, l'Anneau Monde. Et cette image de cet anneau qui circule, enfin cet anneau pardon, qui tourne autour d'un soleil et qui dans lequel il y a des milliers de mondes qui se trouvent, Halo reprend ça et installe son jeu de guerre. Mais là, on a une influence forte de l'idée originale de l'auteur de science-fiction qui est Larry Niven, qui place ce décor que personne n'avait imaginé, qui paraît très fort, hein, une image très très forte. Et on y greffe dessus, ce gameplay de jeu vidéo.
Je crois qu'il y avait eu un jeu de... Je me demande si c'est pas eu un supplément GURPS, d'ailleurs, sur, autour de...
Oui, il y a eu un supplément GURPS.
C'est-à-dire qu'il y a eu un jeu de rôle.
Il y a plus que ça.
Il
y a surtout un jeu Chaosium qui s'appelle Ringworld, qui était le seul jeu de science-fiction de Chaosium, en fait.
D'accord.
Sur les logiques de jeu, on a, donc, comme je le disais, des tendances actuelles du jeu de société qui se répercutent en fait, sur tous les genres, sur toutes les thématiques. Les jeux, par exemple, à identité secrète. Donc là, on va être typiquement dans le cas d'un plaquage de thèmes. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont joué au Loup-garou de Tiercelieu, qui a remis au goût du jour ce genre de jeu. Il y a un jeu du même type qui s'appelle The Resistance, qui est sorti très récemment, qui selon moi est meilleur en termes de gameplay, qui est vraiment très bon, puisque dans les jeux tiercelieux, en fait, on élimine certains joueurs de la partie. Donc quand on est éliminé le premier et qu'il y a 20 joueurs, on s'ennuie un peu. The Resistance, en fait, a le mérite, entre autres, de faire jouer tout le monde jusqu'au bout de la partie. Et le thème proposé est une sorte d'univers... d'anticipation, donc dans un monde totalitaire où les joueurs jouent un groupe de rebelles qui essayent de déstabiliser le régime et qui vont devoir envoyer certains d'entre eux sur des missions. Évidemment, donc ça va pas se passer comme ça puisqu'il y a des traîtres au sein du groupe, donc chacun possède sa carte de loyauté en fait en début de partie. Au niveau de les donc ce que la remarque générale que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, il y a des hybridations, parfois de bonnes alchimies, mais il n'y a pas de gameplay propre aux jeux de science-fiction, en tout cas dans les jeux que j'ai l'habitude de voir. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est de voir, alors là je vais attaquer peut-être une autre problématique, c'est l'impact des licences dans le domaine du jeu de science-fiction. Donc dernièrement, on a Iron Sky qui est sorti, voilà. Immédiatement, sur la période de lancement du film, on a eu droit au jeu de plateau qui est sorti donc lors du salon des scènes de cette année, donc il y a un mois. Donc les choses se sont passées en même temps. On a un jeu lourd dont on suppose qu'il a été développé pendant de longs mois avec de nombreux tests. Donc ça a vraiment été quelque chose de calculé. C'est pas du tout un effet de calendrier. Donc il y a vraiment la volonté d'utiliser comme outil promotionnel en fait un jeu de société. Et je vais reprendre un autre exemple plus loin dans le temps pour voir le décalage qu'il peut y avoir. On a Space Traders qui est signé Isaac Asimov, donc il y a un jeu qui est sorti chez Steve Jackson Games au début des années 80, et l'écart entre la production de l'univers par Isaac Asimov et l'édition du jeu, je crois que ça doit être 8 ans. Donc ça s'est complètement resserré en termes de production et de... Voilà, il y a vraiment une logique transmédiatique qui est vraiment très présente maintenant.
Si, oui, il y a peut-être une spécificité en termes de règles pour les jeux de rôle de science-fiction. Là, je parle des jeux de rôle, hein, pas de jeux de plateau que je ne connais pas du tout. C'est le voyage comment dire, dans l'hyperespace. C'est-à-dire, est-ce qu'on tient compte ou non des paradoxes liés au déplacement plus rapide que la lumière? Généralement, la question est non. Hein.
Non, dans la plupart des...
C'est absolument injouable.
Voilà, simplement.
Bon, enfin, c'est quelque chose qui est propre aux jeux de SF, puisque généralement, effectivement, dans les jeux de rôle contemporains ou de fantasy, cette question, par définition, ne se pose pas.
Ça m'évoque un jeu, mais il faut que je le retrouve, donc c'est pas à moi de prendre.
Manchu, est-ce que tu veux
rajouter quelque chose?
Non, rien.
Non. Partager on aimerait bien en savoir plus sur peut-être la manière dont tu as été amené à travailler sur justement l'Encyclopédie Galactique, comment ça s'est passé, etc.
Sur l'Empire Galactique.
Alors, en fait, l'Empire Galactique, ça a surtout été initié par Gérard Klein.
Oui, c'est ça.
C'est lui qui c'était le gros meneur de jeu.
Gérard Klein, qui est le fondateur de la collection Il y aurait demain chez Robert Laffont, qui était traditionnellement un des grands éditeurs de SF en France.
Ensuite, c'était un travail entre Medelec et moi, quoi, en fait. Ça a été plutôt amusant.
Et vous avez co-construit l'univers ou...
Oui,
c'est ça. Enfin, je ne me rappelle plus trop.
François était quand même
pas
à la base de la chose, mais moi je travaillais sur des images comme ça, pour le fun, et il en construisait quelque chose, enfin il en faisait quelque chose, quoi. Ça lui donnait des idées pour faire certaines choses.
D'accord, okay.
Moi je travaillais sur des images dont lui il m'apportait des détails, des scènes, des choses comme ça. Quoi. Donc ça a été assez interactif.
Ouais. Et à l'époque, vous avez bossé sur le gameplay ensemble ou sur les règles ou déjà?
Non,
pas du tout. Toi, tu n'es pas occupé du tout de...
Vraiment la partie illustration.
Purement graphique.
Et il a toujours été question de faire une partie avec lui et malheureusement, ça...
Elle t'a pas fait de partie d'Empire Galactique?
J'ai jamais fait de partie.
Donc c'est sur l'évocation d'un univers de science-fiction dans un jeu. Donc les jeux ne sont tous les types de jeux ne sont pas égaux. On parlait du jeu de rôle tout à l'heure par rapport au jeu de plateau. La logique narrative qui est le propre des univers de jeux de rôle est très difficile à implémenter de façon efficace dans un jeu de société. On a un exemple qui est assez intéressant, bien que le jeu soit truffé de bugs, mais l'intention est louable. C'est un jeu qui s'appelle Android, qui est clairement un clin d'œil à Blade Runner, qui a un univers évidemment très riche, avec une histoire très forte. Et donc les joueurs vont jouer les équivalents de Runner pour résoudre une enquête. Et il y a une logique de jeu qui est assez perverse, c'est que on se fait progresser en mettant des fausses pistes dans les enquêtes des autres, en fait. Donc c'est un jeu où les joueurs se mettent des bâtons dans les roues en permanence pour tirer leur épingle du jeu. Et le jeu suit un système narratif assez sophistiqué qui construit vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin, des événements qui rythment la partie, donc avec une part d'aléatoire, et qui permettent de construire une histoire au fil de la partie. C'est pas un jeu auquel on va jouer souvent. On va peut-être le sortir 3 ou 4 fois, mais pour des expériences donc narratives à chaque fois différentes, dans une matrice assez élaborée. Quand même.
Je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se dire, c'est que fabriquer un jeu de science-fiction, c'est pas si simple que ça. Et par rapport aux autres thématiques qui sont explorées par le ludique en général, hormis dans le jeu vidéo, et le jeu vidéo pour moi, souvent la science-fiction qui est utilisée dans le jeu vidéo, et c'est une science-fiction qui, dans les thématiques, sont proches des science-fiction des années 50-60, et dans, on va dire, tout ce qui est appareillage, technologie, et par contre une science-fiction qui s'inspire de nos technologies d'aujourd'hui. Et pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle de science-fiction. Il n'y en a pas beaucoup qui ont marqué les esprits. Ça a souvent été des compliqués, ils n'ont pas eu énormément de... Les jeux de plateau, tu l'as dit, il n'y a pas énormément de jeux de plateau de science-fiction. Dernier point que je voulais signaler aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui de fantasy qui sont avant tout des rôlistes, qui viennent du jeu. Or, chez les écrivains de science-fiction, j'en côtoie quand même pas mal, j'en connais pas mal, il n'y a pas beaucoup de rôlistes. C'est-à-dire que la science-fiction semble être, bon, du fait bien sûr de son histoire, mais d'une certaine manière, l'histoire de la fantasy est pratiquement contemporaine, en termes de naissance à celle de la science-fiction dans laquelle on n'a pas énormément de gens qui s'intéressent au jeu. Il y a autre chose qui se met en jeu, pour s'en faire de mauvais jeu de mots, lorsqu'on écrit, lorsqu'on pense de la science-fiction, rapport au ludique. Donc il y a peut-être là une forme de difficulté pour le nouveau média ludique qui est en train de se construire par rapport à la science-fiction. Une des choses importantes qui se passe lorsqu'on joue un jeu de rôle de science-fiction, c'est qu'on peut, sur le long terme, explorer les univers de science-fiction. Lorsque vous faites un jeu de rôle de space opéra, vous allez vous balader, Traveler étant l'exemple archétypal, vous allez vous balader de planète en planète. Et c'est dans cette balade-là de planète en planète que va se forger l'imaginaire science-fiction. Nous, on avait édité à l'époque un jeu qui s'appelait Dark Earth, qui est un, vous en souvenez peut-être, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique. Et dans ce jeu post-apocalyptique, les personnages se baladaient de ville en ville, qui était le seul endroit éclairé du monde, en fait. Et on voit bien que dans la science-fiction, souvent, ce qui est mis en branle, en fait, c'est le voyage. Donc on revient sur les grands thèmes d'Ulysse, tout simplement. Les personnages sont jetés dans des systèmes de voyage. Un autre thème qui est très exploré aussi en termes de ludique, c'est l'économie. La science-fiction est vachement liée aussi à comment je gère un espace, comment je gère un empire, comment je gère Dune étant l'exemple même d'un univers qui a été abordé par le jeu par le biais de l'économie, en fait. Donc, voilà. Mais donc spécifiquement, effectivement, un gameplay spécifique qui contient en lui on va dire les germes d'une science-fiction, il n'y a pas beaucoup. C'est compliqué à trouver, il n'y a pas énormément de choses.
Il y avait l'un des premiers jeux de SF, finalement. Est-ce que c'est pas Star Frontier ?
Star Frontier, post le jeu TSR, tu veux dire ?
Le jeu TSR.
Oui. Il a été fait après, bien après Space Opera.
Il a été fait après Space Opera ?
J'ai joué à Star Frontier pendant des mois.
Parce que Star Frontier, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est, donc c'est un jeu qui a été créé par TSR, qui est la boîte qui a créé donc Donjons Dragons, tout ça. C'est un jeu de SF un peu particulier, puisqu'en gros, on explore des vaisseaux, comme on pourrait explorer ce qu'on appelle un donjon dans Donjons Dragons. Hein. Finalement, je me demande si aussi parmi les thématiques aujourd'hui qui explorent un peu les jeux de rôle de SF contemporains, il n'y a pas les jeux de super-héros, de choses comme ça, où on a des super-pouvoirs, on disait post-apocalyptique, dystopie, des choses de super-héros. J'ai l'impression d'avoir vu apparaître ces choses-là.
White Wolf a fait un jeu de super-héros de science-fiction. Oui. Je sais pas comment il s'appelait.
Moi j'allais intervenir sur d'autres productions, mais effectivement, oui, en ce moment, au niveau des jeux de rôle et de la science-fiction, il y a quand même un apport effectivement du super-héros. C'est un personnage, une figure à interpréter qui va être décliné, que ce soit dans le futur ou que ce soit même, je pense à la Brigade Chimérique et à son encyclopédie à laquelle j'ai participé, à une science-fiction uchronique dans laquelle on joue des surhommes. Oui, c'est effectivement c'est un personnage qui en ce moment va être sollicité
Il y a peut-être une question aussi à se poser sur les archétypes que véhicule la science-fiction en littérature. C'est-à-dire qu'on a souvent des archétypes de pilotes, ce qui fondamentalement assez chiant à jouer un jeu de rôle, quoi. Donc, c'est avec la simplicité narrative qu'a le jeu de rôle, contrairement à la littérature, où le mec peut se poser ou la fille peut se poser des questions pendant des milliers d'années-lumière. Alors que la fantasy, avec son caractère extrêmement schématique en termes de personnages, vous avez le guerrier, le voleur, vous pouvez décliner à des milliers de... Enfin, on retrouve ces archétypes de narratifs très forts, hein, qui sont là depuis les gens les plus anciennes. C'est beaucoup plus facile de raconter des histoires avec.
Et on a les mêmes archétypes dans la SF. Tu as le pilote, tu as le scout, tu as le technicien.
Ouais. Justement, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du jeu de rôle...
On a besoin de super-héros.
Oui, voilà, en fait, un jeu de rôle de science-fiction pur et dur, art-science, etc., dans le jeu de rôle, il y en a vraiment, finalement, assez peu. Et les jeux de science-fiction qui fonctionnent, il y a quand même une véritable injection du code du médiéval fantastique,
de la fantasy. De la fantasy.
Mais c'est bien un problème narratif.
Je ne crois pas que la thématique du voyage soit propre à la SF. On la retrouve tout le temps dans la fantasy. Tu regardes le Seigneur des Anneaux, c'est un long voyage. Par ailleurs, si on prend l'un des derniers jeux de... ou monde plutôt, développé par, maintenant c'est Wizard of the Coast, tu regardes Hébron, je ne sais pas, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est que cet univers, c'est un peu rude, quoi, il y a maintenant 10 ans, sauf erreur, mais Hébron, donc on est dans du médiéval fantastique, mais avec à l'intérieur de l'injection de choses de la SF, puisque la technique est beaucoup plus présente, et finalement ils se sont interrogés sur le rôle que pouvait avoir la magie à partir du moment où elle était développée de manière non pas industrielle, mais pré-industrielle. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez la capacité en tant que magicien de jeter des sorts de lumière éternelle, finalement, pourquoi ne pas y mettre des lampadaires, ce qu'ils font dans les rues, et puis jeter sur chacun des lampadaires un sort de lumière éternelle, au fond, pour avoir l'équivalent de la lumière comme chez nous. Donc on avait regarder ce genre de choses. On a des vaisseaux qui volent, parce que si on peut, comment dire, dompter un élémentaire, alors au choix du feu, de l'air, peu importe l'élément, bah, finalement cet élémentaire, vous le domptez, vous le greffez en quelque sorte, vous l'injectez à l'intérieur d'un vaisseau, bah, ça vous fait un avion, ça vous fait une sorte de voiture, des choses comme ça. On retrouve des éléments de science-fiction dans des jeux de rôle, entre guillemets, médiévaux, fantastiques.
Moi, il y a quelque chose qui m'a percuté, là, c'est le phénomène d'identification, en fait. Dans beaucoup de jeux de société, alors dans le jeu de rôle, évidemment, le processus d'identification joue à plein. Il est moins évident dans le domaine du jeu vidéo. Et dans le domaine du jeu de plateau, on rencontre beaucoup de jeux de science-fiction où les joueurs ne sont pas équivalents en termes de capacité. On va leur proposer de jouer des peuples ou des factions ou un type de personnage justement qui veulent distinguer du voisin de droite et du voisin de gauche. Alors, pour prendre un exemple que certains d'entre vous connaissent peut-être, il y a le jeu Dune dans lequel on va jouer à la tête des Bene Gesserit ou de la maison Harkonnen ou de la guilde. Mais on retrouve donc cette logique qui consiste à associer le joueur à une logique de jeu particulière, donc sur une matrice qui est commune à tout le monde, mais en lui donnant une capacité spéciale, un petit plus qui va nourrir et alimenter le processus d'identification et qui est très intéressant et qu'on repère beaucoup sur des jeux de science-fiction. En fait,
ouais, c'est vrai que, pour reprendre l'exemple de Dune, on est vraiment, on n'est pas à mi-chemin parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu de rôle, mais on incarne vraiment un camp qui est vraiment tellement typé et il y a une vraie part de négociation et de diplomatie à la table. Donc, ce qui fait qu'on incarne finalement, non pas une personne du Bene Gesserit, mais on peut s'imaginer en supérieur, en maire supérieur du Bene Gesserit, finalement en train de négocier avec les Fremen ou l'empereur.
C'est le caractère exceptionnel de l'expérience que propose ce jeu, c'est que la phase de négociation est une phase de négociation pure. Il n'y a pas de règles simulant la négociation. On négocie véritablement, avec ces mots, avec une tendance parfois à faire du roleplay, c'est-à-dire à exprimer les traits et les caractéristiques de sa faction. C'est assez intéressant, comme le fait de jouer le baron Harkonnen à une table de dune peut impacter le comportement du joueur, en fait. J'ai de très bons amis que j'ai perdus, d'ailleurs.
C'est pour ça que les jeux coopératifs, c'est plus sympa. Ouais. Pour revenir quand même sur cette histoire-là, réfléchir en marchant là en ce moment, là. Mais revenir à cette histoire d'adéquation entre les thématiques fortes de la science-fiction et le gameplay, c'est vrai que je rêverais là d'avoir un jeu de plateau qui incarnerait les problèmes du voyage supraluminique. C'est des problèmes que la littérature s'est maintenant très bien traité, avec beaucoup de poésie. Je pense à La guerre éternelle de Joel Deman, qui est pour moi un des grands romans de la science-fiction. Il y a à l'intérieur ces scènes incroyables. Tu dis ?
C'est magnifique.
Oui, voilà, c'est magnifique, on est d'accord. Il y a des scènes absolument bouleversantes d'amour déchiré à cause de ce soldat qui part faire la guerre à des années-lumière et qui revient. C'est une vieille thématique de la science-fiction, mais là, elle est très bien écrite et c'est magnifique. Donc, on pourrait imaginer un jeu de plateau ou un jeu de rôle dans lequel on traite ces questions-là. Mais pour des questions de gameplay, justement, c'est très difficile, c'est très compliqué de mettre ça en scène. Pareil, il y a une thématique que j'aime énormément, qui est la thématique en gros de la transcendance informatique, celle que Greg Gann traite dans, je viens de perdre le nom, dans Cité des Permutants, Permutation City, dans la Cité des Permutants. Ça serait très intéressant de voir aussi le différentiel temps lorsqu'on est uploadé dans un computer, on pense 50 000 fois plus vite qu'un être humain, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça, ces abîmes couvrent la science-fiction, qui est vraiment, pour moi, une de ses propriétés, une de ses caractéristiques fortes. C'est très compliqué de faire ça dans un système fermé. Souvent, les jeux, en général, sont des systèmes, et c'est très compliqué de mettre ça en scène, en fait. Donc peut-être qu'il y a tout simplement un hiatus. Il y a une difficulté là, il y a quelque chose qui se met en place entre la science-fiction. Quand on pense à Dune, moi, j'ai toujours rêvé, j'ai fait des jeux de rôle, j'ai imaginé, j'ai écrit des règles pendant longtemps, jeux de rôle, j'ai essayé d'avoir les droits, etc. C'était très compliqué. Il y a eu un projet de jeu de rôle qui a été mené quasiment jusqu'au bout, qui a été arrêté pour des questions de droits. Mais en fait, quand on joue à Dune, On ne joue pas un jeu de science-fiction. On joue un jeu de faction, on joue un jeu de la Renaissance. Complot, guerre, y a un côté économique fort, mais en fait, c'est globalement la thématique de la Renaissance. Donc l'Italie, et là, il y a des jeux de plateau qui marchent très, très bien. Donc là, il y a peut-être quelque chose, peut-être que la science-fiction, la beauté de la science-fiction, une des beautés de la science-fiction, qui est de nous mettre en perspective devant ces gouffres, ces infinis, ces infiniment petits, infiniment grands, peut-être que les règles, les jeux n'y arrivent pas, ne peuvent pas.
Alors, pour répondre à ça, alors sur l'exemple,
je propose.
Voilà, de ma propre expérience, il y a pas de jeu sur la question de la vitesse supraluminique.
Il y a des game designers dans la salle.
Moi, je distingue vraiment les problématiques posées par la SF et spécifiques à la SF et les activités par lesquelles elles sont abordées. Cette activité, par exemple, peut être la guerre, dans l'exemple que tu donnais. Et ce qu'on va proposer dans un jeu de plateau, qui est une matrice, un dispositif ludique, on va proposer non pas une problématique, ou alors elle sera exposée dans le livret de règles et les gens ne la liront pas. On va exposer une activité au joueur. Qu'est-ce qu'on va proposer au joueur de faire ? Ça peut être de l'économie, échanger avec les voisins des ressources et être le plus riche à la fin. Ça peut être le voyage, aller de la case 1 du parcours à la case 64 du parcours. Ça peut être, et je reprends l'exemple tout à l'heure, la simulation de vol. Donc là, il y a effectivement le jeu X-Wing qui est sorti récemment, qui tourne. Et je me rappelle aussi, dans les années 80, moi, on m'avait offert un... ça se faisait beaucoup dans les années 80, c'est des livres-jeux qui fonctionnent par deux.
Oui.
Donc, on joue avec un camarade. On a une page pour laquelle commencer, et donc des manœuvres. Donc, c'est en vue subjective.
Mais t'as X-Wing, et t'avais la Première Guerre mondiale, t'avais les biplans aussi, c'était super, ça.
Et c'était magnifique, parce que quand on est gosse et qu'on reçoit ça, c'est une boîte noire. On ne sait pas comment les gens ont réussi à concevoir un système si parfait où le fait de choisir une flèche en bas de la page va vous mener à telle autre page qui représente exactement la manœuvre que vous venez de faire et qui va se répercuter sur le livre du camarade. Et donc c'est un simulateur de vol papier avec des livres assez épais. D'ailleurs, bon, les gens métagamaient souvent, c'est-à-dire qu'ils prenaient en compte la logique même du jeu et finissaient par se dire « Je me souviens qu'en page 132, je suis juste derrière lui.
Ouais. » Exactement. C'est très bon, ça. Et donc, ils avaient fait ça sur Star Wars, je crois.
Ouais,
c'est ça.
C'était X-Wing et TIE Fighter. Ouais.
À la base, c'était des biplans.
Voilà. Donc voilà, on propose véritablement des activités aux joueurs. Et c'est vrai que sur le plan des problématiques et des thématiques, c'est très dur d'implémenter ça dans toute sa richesse. Dans un jeu de plateau, les limites sont fortes. Le matériel est contraignant, beaucoup plus que dans un univers de jeu de rôle où on est beaucoup plus dans l'évocation.
À propos d'univers de jeu de rôle, je sais pas si ça a été fait ou pas. Enfin, si ça n'a pas été fait, on pourrait le faire. Et si ça a été fait, j'aimerais bien y jouer. Ce serait un jeu de rôle de science-fiction, donc inspiré de Fallout, l'univers des jeux de rôle. Je ne sais pas tous s'il y a un jeu de rôle qui en a été tiré ou pas.
Je crois qu'il y en a un.
Il y en a un. Ce serait une chose assez marrante. Je ne sais pas si vous voyez cet univers post-apocalyptique qui est très, comment dire, qui a beaucoup de succès en jeu vidéo. Il y a eu plusieurs épisodes. Là, pour moi, on est vraiment, je dirais, dans le jeu de rôle de science-fiction qui représente le plus à notre époque, ou en tout cas aux jeux que notre époque développe.
Il y a pas mal de post-apo, hein.
Les trucs dont je parlais tout à l'heure, genre Vermine ou Anteas, justement, qui sont des jeux français, sont sur cette thématique-là, justement.
Oui, mais le post-apo, c'est... Bon, après, on va se battre sur des questions, et... Je crois que ce que tu disais, c'est assez important, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux joueurs. Et justement, lorsqu'il y a une adéquation forte entre la thématique qui est véhiculée par l'univers et le gameplay, ça marque, les gens sont marqués par ça. Donc, que ce soit dans les jeux de rôle, que ce soit dans les jeux de plateau, quand il y a une très forte correspondance. Donc, si c'est pour jouer à un jeu de guerre, quel que soit l'habillage, là, on va s'intéresser au gameplay pour un jeu de plateau, si c'est super fun, super intéressant à jouer, etc. Par contre, quand on a que ce jeu de guerre ouvre des perspectives comme les guerres qui se passent dans des années-lumière, machin, etc., ouvre des perspectives de science-fiction, là, ça va marquer. Parce que l'imaginaire va être aussi emporté par à la fois le jeu et à la fois la thématique. Donc au contraire, je pense qu'il faut chercher. Il ne faut pas juste habiller un jeu de guerre en disant que ça se passe dans l'espace. Il faut essayer de trouver, en tant que game designer,
un gameplay.
Voilà, bien sûr, d'incarner dans le gameplay les thématiques que l'on souhaite traiter.
Je reprends l'exemple d'Android dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, des jeux d'enquête, il en existe, du Cluedo à des jeux plus récents et très élaborés. C'est une logique de jeu qui est pas très courante, parce que c'est un véritable casse-tête en termes de game design. Le mérite d'un jeu comme Android, c'est que sans aborder la thématique du doute, de la culpabilité par rapport voilà, à la personne qu'on recherche et qu'on chasse, comme dans Blade Runner, y a véritablement cette idée de réussir en nuisant aux autres, ce qui est vrai dans beaucoup de jeux de type compétitif. Dans ce jeu-là, vous le ressentez beaucoup plus efficacement. Et bon, si vous avez le sommeil léger, vous ne risquez de pas dormir la nuit si vous avez gagné, parce que ça implique vraiment que vous ayez saboté le jeu des autres sciemment et que vous avez tourné toute votre partie là-dessus. Et elle est implémentée dans ce jeu de façon très efficace.
Moi, à l'inverse, quand j'ai travaillé sur Warsaw, un jeu qui est sorti, c'est Jungdo, qui est une uchronie qui se passe 50 ans après que la Première Guerre mondiale continue, dans un huis clos qui est devenu le Varsovie. J'ai vraiment travaillé avec Willy Favre au système, en lui demandant de faire un système où la survie devait être collective. Quoi. Un individu isolé finissait forcément par manquer de quelque chose, de ressources, de nourriture, de combativité, de connaissances, finissait par mourir. Et donc la survie passait par le groupe avec la création d'une faction. Je m'étais inspiré de Conspiracy X pour le coup. Et sauf que moi, il n'y avait pas des points de faction. C'est-à-dire que c'est le joueur qui doit prendre sur son quota de points de création pour créer une faction. Et les joueurs mettent en commun ces points dont ils ont à leur personnage. Ça leur coûte vraiment de construire cette faction. Et plus ils sacrifient de leurs propres points, plus ils construiront une faction avec des meilleures installations, des ressources, des personnes, des armes, etc. Et donc, c'était la volonté que ça passe par le collectif. Quoi.
C'est marrant, c'est quelque chose qu'on retrouve également pas mal dans les nouvelles versions de Grand Dragon, c'est-à-dire les dernières éditions, que ce soit la 3.5, Pathfinder, ou si j'ai bien compris, la 4, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des jeux, contrairement aux anciennes éditions des années 80-90, où effectivement les scénarios étaient écrits parfois pour alors 6 à 8 personnages, etc. Là, on est vraiment plutôt dans des scénarios écrits pour 4. Je dirais, alors 4, vous avez généralement, en tout cas je parle pour la fantasy, vous avez des archétypes, c'est-à-dire le guerrier, le prêtre, le magicien et l'expert, enfin, ou blanc, si vous voulez. Et si ces 4-là ne fonctionnent pas de manière extrêmement étroite, coordonnée, etc., si chacun ne joue pas vraiment avec les autres, ça ne marche pas. La partie va vite s'arrêter.
Je repense à un jeu de rôle très efficace qui est Paranoia.
Ah oui, bah oui, c'est vrai, on a tous, voilà. Tous fait des parties de fou. Paranoïa.
Et où là, pour le coup, je trouve que la problématique du clonage est intéressée et intéressante.
Tu as tout à fait raison, c'est un très bon exemple où il y a effectivement, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais il y a une adéquation très forte entre l'idée de science-fiction et le gameplay.
Oui, il faut peut-être effectivement, parce que là, il y a un gameplay particulier, il faut peut-être présenter rapidement ce que Paranoia est pour les gens dans la salle, je ne sais pas si tout le monde voit. C'est un jeu des années 80, Western Game, je ne sais plus.
Western Game 80.
Et alors, le principe, c'est qu'on vit tous sous terre depuis tellement longtemps qu'on a oublié même qu'il y a une surface, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, visiblement, il s'est passé un truc. La vie est, comment dire, de tous les jours, elle est gérée par un grand ordinateur. Et nous sommes des clones, c'est-à-dire qu'on est des numéro 1, numéro 2, je crois qu'on a 7 clones, ou un truc comme ça. Et pourquoi on en a 7? Il y a aussi une raison de gameplay assez particulière, c'est que nos personnages meurent extrêmement facilement, parce que si on dit des choses qui ne vont pas, le grand ordinateur nous envoie nous faire réformer, sous-entendu on meurt et on joue clone numéro 2. Là, il y avait vraiment un impact dans le gameplay de l'univers. C'est vrai que c'est un des rares exemples où on a quelque chose de... Le jeu, cela dit, est humoristique, et c'était vraiment très 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 drôle. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'en parle au passé, mais c'est un jeu absolument extraordinaire.
Et on prend plaisir à perdre ses clones, en fait. Donc, c'est Verdo qui... La mort est souvent tragique. Quand on perd son personnage, on n'est jamais content. À Paranoia, on a toujours le sourire aux lèvres.
On faisait des challenges pour savoir comment mourir.
C'est absurde. C'était finalement les Darwin Awards avant l'heure.
Alors, il y a un jeu aussi. Alors, plus récent, celui-là, c'est Eclipse Phase. Voilà, dans lequel il y a des problématiques pour le coup qui sont très très bien exploitées. Cette idée d'homme-machine, voilà, de transhumanisme et de désincarnation. Alors j'ai pas eu le bonheur d'y jouer, mais j'en connais les fondements. Mais peut-être que vous pourriez nous en parler.
Non, j'ai juste lu les prévues qu'il pouvait y avoir. Et effectivement, on est vraiment sur un jeu qui est un peu plus artiste, un peu plus transhumaniste, où on peut transférer sa conscience d'un corps à un autre, gradé, etc. C'est pour moi un peu la version moderne de ce que pouvait être le cyberpunk dans les années 80-90, qui est maintenant un peu dépassé. Oui. Et alors, c'est voilà,
alors effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a effectivement un jeu de rôle qui, lui, a été fondateur pour plein de personnes, qui est Cyberpunk. Mmh. Non seulement il était fondateur parce qu'il a initié plein de romans derrière, même s'il vient de...
Il est lui-même initiateur.
Voilà, voilà, c'est lui-même initiateur d'une création littéraire. Mais surtout, c'est que le gameplay qui était à l'intérieur de ce jeu de rôle, en particulier le gameplay sur la matrice, sur le fait de rentrer dans, par un appareil informatique dans une matrice qui aujourd'hui s'appelle Internet, ça a été pour nous tous, ça a été, je veux dire franchement, ça a été l'expérimentation de ce qu'allait devenir Internet. Internet n'existait pas, personne n'en parlait, ça n'existait pas. Donc quand on a joué à Cyberpunk, ça nous a fait réfléchir sur ce qu'est-ce que ça voulait dire être connecté, des milliards d'humains connectés, etc. Donc là, effectivement, il y a une adéquation très forte entre le ludique. Là, ça revient. Ouais. C'est bien que tu aies parlé paranoïa parce que ça fait revenir les... Et on y a joué pendant des années à ce jeu, et ça a été pour nous une façon d'explorer ce qu'allait devenir notre présent aujourd'hui.
Avec la question du hacking qui est très importante, parce que là elle fait partie du gameplay au sens où les joueurs vont souvent interpréter des gens qui luttent contre des groupes ou des mégacorporations qui
c'est SNG, on a tout joué à SNG avant l'heure quoi.
Voilà.
Ouais.
J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié.
Oh, pardon, c'est de ma faute.
Donc, effectivement, donc ça veut dire que on peut quand même, dans les jeux de rôle, trouver un peu plus de ludique et d'adéquation avec. Se permettant une adéquation avec les thématiques de
science. Oui, j'ai approuvé. Je voulais dire, en fait, rien ne vieillit plus vite que le futur. Ou plutôt, rien ne vieillit plus vite que l'idée qu'on souhaitait du futur. Parce que justement, c'est vrai que le futur tel que rêvé dans les années 80 avec Cyberpunk, finalement, a pris un méchant coup de vieux. Quoi. Une chose, oui, que je voulais dire aussi, c'est que je me suis repenché il y a pas longtemps, enfin, ça fait quand même 4-5 ans, j'ai encore mes vieilles boîtes des années 80 sur les ordinateurs et les systèmes de communication qui étaient proposés dans les jeux comme Traveler, qui étaient donc des jeux qui se passent, je ne sais pas en quelle année, 2500 et quelques, peut-être même plus, mais finalement, c'est totalement dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2010, mais peut-être même déjà en 2005, on avait des engins plus puissants, enfin, je ne parle pas des vaisseaux spatiaux évidemment, mais je parle des ordinateurs ou des moyens de transmission qui étaient plus développés que ceux proposés dans les jeux. Quoi.
Même si de temps en temps, alors j'ai pas d'exemple qui me revient en tête, il y a des fois quelques fulgurances, quoi, des trucs qui ont été proposés à l'époque pour comme étant des choses du futur, et finalement ça se réalise un petit peu, quoi. Je sais plus quel jeu intégrer des espèces de petits boîtiers de commandes qui seront plus tard des portables.
Et, tu l'as dans Star Trek, ça.
Ouais, voilà. Il y a des fois ça marche, quoi.
Mais ça ramène à la bonne vieille maxime, ne mettez jamais une date sur la boîte de votre jeu, quoi. Sur le titre de votre jeu.
Mais Cyberpunk, à la limite, c'est vrai que, comme tu disais, le Wi-Fi a rendu les choses assez obsolètes, les prothèses où on branche, les machins, etc. Mais dans la vision de la société, il y a les méga-corporations toutes puissantes qui dictent les choses au gouvernement, etc. Il y a des choses qui sont un peu plus d'actualité, quoi, finalement.
Oui, alors, quand même, Cyberpunk, c'est à la fois le courant littéraire comme le jeu de rôle, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des chercheurs qui s'intéressent, des chercheurs en sociologie et en ethnologie, qui s'intéressent sur l'influence de la littérature sur la manière dont les scientifiques et les techniciens fabriquent le net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des laboratoires, dedans, on a des gens de 30, 40 ans ou de 20 ans qui sont des joueurs de jeux de rôle, qui ont joué beaucoup à Cyberpunk, qui ont lu beaucoup de romans et qui pensent leur programme et qui pensent leur façon, les objets qu'ils vont nous vendre en fonction de la manière dont ils ont joué. Donc ils sont en train, par exemple, d'implanter des cartes mémorielles dans des neurones de rats pour faire revenir des sourires, des souvenirs de rats. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils essayent justement de pas aller avec le Wi-Fi et d'implémenter l'ordinateur dans nos crânes. Donc on est vraiment quand même sur un rétro-feedback passionnant, je trouve. C'est très intéressant de voir comment l'art, la littérature, le jeu de rôle, modifie très profondément nos vies dans quelques années. Les gens sont influencés par ce qu'ils ont fait quand ils avaient 14-15 ans.
Ouais, comme on a pu retrouver les automobiles des années 50, tout le design, donc on se faisait des vaisseaux du futur,
tu as tout à fait raison.
Les ailes, voilà. Des voitures, des Cadillac, etc.
Tu as tout à fait raison, la beauté de la science-fiction s'est retrouvée dans les voitures.
Mais sur le risque d'un jeu qui annonce le futur et qui ensuite peut être disqualifié en fait par...
Disqualité, oui.
Ouais.
Et c'est le même problème que pour la littérature. Mmh. C'est-à-dire, si tu prends les chroniques martiennes de Ray Bradbury, je ne veux pas dire de bêtises, là je parle un peu de mémoire, il me semble que la dernière nouvelle des chroniques martiennes se passe en... Bon, je m'avance un petit peu, mais je crois que c'est 1999,
ouais, c'est ça,
ou quelque chose comme ça. Et donc, il décrit déjà les personnages sont sur Mars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle qui est magnifique, qui s'appelle Le pique-nique d'un million d'années.
Tu peux même prendre. Il y a un roman qui s'appelle Le printemps russe de Spinrad, qui raconte l'aventure d'un chef d'entreprise soviétique, et il a été publié trois ans avant, ou quatre ans, si je me souviens bien, avant la chute du mur de Berlin. Quoi. Donc là,
c'est vraiment pour ça que la solution, elle est dans la SF Uchronique. C'est là où moi j'ai travaillé, que ce soit la Brigade Chimérique, Warsaw, etc. On est tranquille.
Oui, non, mais c'est-à-dire que la SF n'est pas qu'une question de date non plus.
Non, oui, bien sûr que non.
Je veux dire, peu importe la date, la beauté du Bradbury ne tient pas au fait que ça se passe en 1999.
Mais justement, quand je peux, il m'arrive de rejouer à des jeux d'anticipation des années 80. Et pour moi, ils ne sont pas disqualifiés. C'est-à-dire que je ne joue pas comme à une version du futur datée. J'y joue vraiment comme à une réalité alternative.
Tu fais une chronique.
Un futur possible, quoi. Ouais, Oui, comme d'aborder aujourd'hui une partie de cyberpunk avec la musique de Big Idol de l'époque, etc.
Waouh, c'est pas mal ça.
Il a fait un album qui s'appelle Cyberpunk.
Oui, c'est vrai, tu as tout à fait une partie.
Et on pourrait jouer dans cet univers-là sans se moquer, finalement, en se disant, c'est un futur
c'est la réalité.
Qui pourrait être, quoi. C'est la réalité.
Mais c'est le postulat du jeu de rôle, c'est accepter le monde tel qu'on nous le propose, et ces questions-là ne se posent pas.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des gameplays qui vieillissent mal? C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gameplays qu'on a pu apprécier dans les années 80 plus jouer maintenant.
Le côté de la matrice, c'est vrai qu'un des retours, c'était que c'était des phases interminables. Il y avait un bonhomme qui se branchait dans la matrice, et ça pouvait durer une heure et demie, et les autres le regardaient agir. Quoi.
C'était l'éther médiane du rêve pour ceux qui vont jouer à Rêve de Dragon. C'est pareil, hein, c'est le même principe, hein, c'est les mêmes structures derrière.
Mais c'est vrai que voilà, ce dont je souffre maintenant, c'est le côté dépassé de leur gameplay. Mmh. On est allé vers des systèmes plus innovants, plus légers généralement.
Joyeux.
Voilà aussi.
Fun.
Oui, qui vise moins à simuler quelque chose qu'à provoquer un type d'expérience autour de la table, plus directement, sans passer par des tableaux à double entrée, par exemple.
Mais c'est-à-dire que la grande problématique des règles pour les jeux, en gros, on est toujours entre vraisemblance, réalisme et jouabilité, plaisir. Et par exemple, bon, il est évident que pour pouvoir tirer du plaisir d'un jeu, il faut y adhérer un minimum. Et donc, il faut avoir un minimum de vraisemblance. Mais la vraisemblance des jeux de rôle de SF, je dirais, par définition, elle tend à copier la réalité ou copier la réalité telle qu'elle devrait être à un temps donné. Mais il y a des limites. C'est-à-dire que si, effectivement, je reparle aujourd'hui de Space Opera, mais il y avait eu une version dont j'ai oublié le nom, la post-apocalyptique, avec le même système de règles, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Aftermath,
merci. Où justement, j'allais dire, le jeu de rôle, les règles étaient si réalistes, où elles se voulaient si vraisemblables, que ça devenait absolument injouable. De même, il y a des systèmes plus légers, qui sont, à mon goût, mais c'est toujours une affaire de goût, beaucoup trop légers et du coup trop vraisemblables, parce qu'il y a des tas de trucs qui ne sont pas,
de toute façon, la quête du réalisme, à mon avis, ne doit absolument pas dicter le gameplay, parce que c'est toujours une vision qu'on a du réalisme et de l'emprise et des pouvoirs que les joueurs peuvent avoir sur l'histoire.
Après, c'est vrai que c'est deux tendances assez fortes qui est le. Enfin, il y a plusieurs tendances dans le jeu de rôle et dans ce qu'on veut obtenir de l'activité. Il y a une tendance, on est quasiment dans le domaine de la caricature, qui est le simulationnisme, qui consiste vraiment à essayer d'aller. Et typiquement, la SF, le jeu de rôle
s'y
SF,
prête.
Au début, voilà, en tout cas, oui. S'y prêtait beaucoup. Oui. Quand on allait dans la Hard Science. On avait des encyclopédies pour le coup assez denses. Et puis il y a le narrativisme qui va plutôt mettre des outils au service de l'histoire, proposer des outils au service de l'histoire, donc avec des systèmes plus légers, souvent plus innovants. Mais encore une fois, ça ne sert pas le même objectif et on ne peut pas juger l'une par rapport à l'autre. Voilà.
L'idéal, c'est d'articuler les deux.
Voilà.
Je pense que c'est. Oui. C'est un autre débat, ça.
C'est un autre débat, et peut-être avez-vous déjà envie de poser des questions. On a beaucoup parlé, on est passé d'un sujet à l'autre, et c'est un petit peu à votre tour.
Quelque chose auquel on n'a pas fait référence par rapport à ces vieux jeux.
Pour remarquer.
Oui, normalement, la voix elle porte. En gros, ça marche bien, ça devrait marcher. C'est les illustrations.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Moi, j'ai des souvenirs nostalgiques de vieux jeux de SF. Quand je les ressors des cartons, quand je me tombe dessus. Et que je vois certaines illustrations, j'ai un peu peur.
Ça fait mal.
Et je pense que dans l'idée de faire des nouveaux jeux de SF, il y a aussi ce travail graphique qui est super important à mon sens, parce que on le voit dans les boutiques de jeux de rôle quand on s'y reste, Parce que les gens font ce qu'ils feuillettent, donc ils ne lisent pas le texte, hein. Ils regardent les images. Et s'il est, ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'un graphiste.
Mais en pierre élastique, tiens bien la route, justement. Pour vous, des illustrations, c'est rigolo, parce qu'on en parlait hier. Il y a des jeux, bon, c'est pas propre à la SF, mais même la fantasy. Si vous prenez le premier livre de Le Manuel des monstres d'ADB, on se demande comment ils ont pu publier un truc pareil. C'est monstrueux. Mais même dans les années 80... Dans les années 80, il y a des illustrations qui m'avaient fait rêver pour Dragonlance et autres. C'est vrai qu'elles étaient beaucoup magnifiques, Delmore, Parkinson et autres. Bah, aujourd'hui, je les aime encore, mais je trouve qu'elles ont pris curieusement un petit coup de vieux. Enfin, comment faire pour qu'une illustration dure ?
Bah, de toute façon, au même titre que l'illustration de couverture de roman, ça vieillit très, très rapidement, surtout dans le domaine de l'art science. C'est vraiment sans doute le domaine qui va vieillir le plus vite. Alors pour y remédier, moi j'essaye de me documenter, je m'intéresse énormément aux technologies qui avancent, quoi. Donc peut-être que j'adapte aussi mes illustrations à ça. Il y a certaines machines que je ferais différemment maintenant qu'il y a 20 ans, quoi. Parce que je me suis documenté sur la robotique, sur l'informatique, sur pas mal de choses, quoi. Donc il y a différentes... ça se dessine différemment, quoi. Voilà.
Ça me fait penser à autre chose à propos d'illustrations. Il y a un illustrateur qui est là parmi nous, enfin qui n'est pas ici dans la salle, qui s'appelle Nicolas Fructus, qui fait des bandes dessinées, qui a beaucoup fait de jeux d'illustration, de jeux de plateau et tout ça. Et Nicolas Fructus avait fait, je crois que c'était en l'an 2000, il avait fait une affiche pour une exposition au Centre national des arts et métiers sur les différentes vies du livre. Et donc il avait montré sur son affiche, il avait montré des tablettes en pierre, hein, sur lesquelles on écrit au ciseau, il avait montré des incunables, il avait montré des livres, et puis la dernière étape, c'était en 2000, il n'avait pas, il avait montré vraiment des livres numériques, c'est-à-dire que, des livres numériques, des Kindle, des iPads, c'est-à-dire que quand vous regardez son affiche qui date de 2000, vous avez un truc, c'est un iPad. Et là, vraiment, enfin, sauf erreur, ça n'existait pas du tout à l'époque, et Nicolas avait dit, oui, mais c'est une évolution logique, finalement, il avait perçu en 2000 quelle allait être l'évolution logique là-dessus, c'était pas trompé.
Il a pompé sur Star Trek.
C'est possible.
Décidément.
Oula. Je vais être obligé de rentrer dans des détails pas forcément élégants. Comment dire ? En fait, à la base, c'est une association qui est la Ludothèque de Boulogne-Billancourt. Un projet a été proposé en fait, pour devenir Centre National du Jeu, ce qui impliquait en fait, une diversification des missions et aussi de plus grandes capacités d'accueil. Le projet a été voté, puis les choses se sont compliquées et on n'a pas eu l'espace que nous aurions dû avoir, en fait. Ce qui fait que le nom a été gardé parce que, après 5 ans de communication, c'est dur de revenir en arrière. Concrètement, on fonctionne encore largement comme une ludothèque. Bien qu'on ait un fonds de jeu assez important qui nous permet de temps à autre de faire des expositions, comme on en fait une actuellement donc, au CEL, on a également d'autres activités qui ne sont pas liées directement aux activités typiques de ludothèque, mais sur les concours de création de jeux et ce type de choses, qui nous éloignent de la logique de ludothèque et pour lesquelles on tient quand même à garder un nom différent. Voilà.
J'ai dit que c'était un genre contraint par le temps.
Oui, mais en même temps, ça va les œuvres fondatrices, je pense à 1984, par exemple, ou les œuvres de Jules Verne.
C'est pas une œuvre fondatrice, 1984.
Non, pas fondatrice, mais...
Importante, on
dirait. Importante, pardon. Ou les certaines œuvres de Jules Verne dans Paris au XXe siècle, qui sont datées, et qui pourtant, quand on les lit, sont toujours actuelles. Finalement, ce qui fait leur actualité encore, c'est leur réflexion qu'elles amènent. Mmh. Et qu'elles amènent nous amènent à nous poser des questions sur notre époque d'aujourd'hui. Et pas que ça ne s'opposerait pas au côté ludique, qui est plutôt le côté où on lâche le cerveau des fois. Et est-ce que le problème ne serait pas là ? C'est une question.
Alors, les joueurs de jeux de société aiment souvent se prendre la tête.
Oui, c'est ce que j'ai. Ils lâchent pas trop leur cerveau. Hein.
Alors, sur des mécaniques et des thématiques, dans le domaine du jeu de rôle, voilà.
Mais moi, ce que je pense, c'est que les mécaniques sont des thématiques. Depuis longtemps...
Elles fonctionnent ensemble.
C'est que l'intuition que j'ai, c'est que pourquoi le ludique aujourd'hui fonctionne, pourquoi il se répand partout dans nos cultures, que ce soit par le jeu vidéo, que ce soit par le jeu plateau, même par le jeu de rôle, même si ça reste encore très minoritaire, et un peu partout à travers la planète. Hein, je veux dire, les Japonais jouent aux jeux vidéo, c'est eux qui ont en partie inventé la culture du jeu vidéo. Les Chinois jouent maintenant beaucoup aux jeux vidéo, donc on a une... voilà. Et donc, je pense que le jeu, enfin les règles de jeu sont un moyen de comprendre le monde, de le tester, et donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans nos cultures, qui sont ces pratiques ludiques. D'ailleurs, dans le travail, c'est en train d'arriver. C'est ce qu'on appelle la ludification du monde, ou le gamification, avec ce qu'on appelle les serious games, de plus en plus, quand vous faites des stages de ressources humaines, quand vous êtes recruté ou des choses de ce type-là, vous passez par des systèmes de jeux vidéo. Donc qui utilisent des technologies de jeux vidéo, mais aussi du gameplay de jeux vidéo, pas juste de l'informatique, mais aussi du gameplay. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre lancer un dé, c'est faire sens dans le monde, pour parler rapidement. C'est-à-dire que c'est pas juste on s'amuse. On s'amuse, et ça c'est cool, ça c'est bien, et ça c'est vraiment ma passion pendant des années, mais en même temps, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose sur le hasard au milieu de la littérature. Ça veut dire quelque chose.
Frédéric, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est évidemment les Poutard est indissociable de sa technique. Mais c'est valable pour le jeu, c'est valable pour le cinéma. Je crois que c'est Godard qui disait qu'un travelling est un acte politique. C'est valable pour l'écriture, c'est-à-dire qu'un écrivain, quelle que soit la thématique, quelle que soit l'histoire, il doit aussi réfléchir à ses outils, c'est-à-dire à sa langue, à ses virgules, à sa formulation.
Oui, mais j'espère que je n'ai pas enfilé des perles, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le ludique, personne ne le pense réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelques penseurs qui le pensent en mathématiques, sur la théorie des jeux, etc., mais il y a, en philosophie, par exemple, il y a très peu de personnes qui s'intéressent sur qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement jouer. Il y a un philosophe allemand, il y a Roger Coria qui a posé les bases de c'est quoi le jeu. Il y a Huizenga qui en a parlé d'un point de vue sociologique. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Mais en fait, c'est intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi le jeu prend. Pourquoi, dans nos sociétés, à quoi il répond, quoi.
Une chose qui est très importante aussi, c'est nous. Enfin, quand je dis nous, c'est nous joueurs, vous joueurs, etc., face au hasard. C'est-à-dire que comment il y a des jeux sans dés. Je suis toujours demandé comment ça marche. Moi, j'aime bien l'histoire de l'aléa. C'est-à-dire, j'aime bien savoir que avec mes compagnons de jeu, d'ailleurs, je préfère les jeux coopératifs, jeux de rôle ou non. Enfin, je préfère les jeux de rôle coopératifs à ceux. D'ailleurs, je connais pas trop les jeux de rôle non coopératifs, mais qui ne le seraient pas. C'est-à-dire, comment nous, on va pouvoir, en mettant toutes nos capacités ensemble, en commun, on va pouvoir finalement vaincre un peu le hasard, mettre les chances de notre côté.
Pour aller un peu dans le sens, il y a aussi des livres de science-fiction qui ont le jeu pour thématique.
Oui, exact. Bien sûr.
L'homme des jeux de banque,
c'est
un livre. Récemment, enfin, sur quelques dernières années, il y a eu une vague, alors, ils n'ont pas forcément tous été traduits ou bouquins, de romans s'inspirant des MMORPG.
Oui.
Voyons aussi un futur possible des MMORPG assez intéressant, je pense à For the Wind de Cory Doctorow,
et très
aussi
bien.
Alting State de Charles Cross.
Mm-hmm. Ah oui, complètement.
Sur les
Vous avez tout à fait raison.
Des MMORPG qui peuvent communiquer entre eux, éventuellement échanger des objets, qui est très, très intéressant. Et aussi un autre, c'est limite de la science-fiction thriller, c'est Rimdi de Neil Stephenson.
Ouais.
Alors Rimdi, l'intérêt du MMORPG de Rimdi, c'est qu'il est basé sur une géologie, sur une simulation exacte de la géologie. Et donc, il est, en gros, géologiquement exact. Et les joueurs sont encouragés à bien comprendre la géologie du monde et pour savoir où miner les veines d'or et de gemmes précieuses. Et il y a toute une réflexion sur le rôle de la Terre dans les mythes de fantasy et sur le... Et c'est pour ça, Rimdi est très, très intéressant.
À propos de la Terre, là, du coup, je rebondis sur un truc, c'est qu'il y a une thématique qui apparaît, je crois, de plus en plus dans les jeux de rôle aujourd'hui, c'est l'écologie. C'était une chose qui était plutôt absente, franchement, dans les années 80-70, on ne se souciait pas trop. Quoi.
Il y a quelques jeux de plateau écologiques.
Oui, il y en a pas mal. Mais enfin, vous avez tout à fait raison. Hein. Ça montre aussi la force de la science-fiction comme système d'interrogation de notre réel. Hein. Donc, c'est intéressant.
Et je souligne juste une remarque qu'on n'a absolument pas parlé, mais c'est très important aussi en termes de véhicule de la science-fiction. C'est le jeu de rôle grandeur nature.
Ah oui.
Voilà, malheureusement, on n'en a pas parlé, mais c'est un média très, très actif en France. Énormément d'associations qui proposent régulièrement.
On a joué tous les deux un GN il y a un an.
Ah bon? voilà, mais on était déguisés.
C'était
quoi l'assassin
d'ailleurs?
Donc voilà, le GN, c'est aussi un très bon vecteur avec des associations qui, avec voilà, quatre bouts de ficelle, font des merveilles en termes de rendu et d'ambiance. Donc si ce type de jeu ne vous impressionne pas, allez-y. Notamment sur des petits formats, des formats courts de 4-5 heures pour se mettre le pied à l'étrier, c'est très bon. Il existe de très bons scénarios d'anticipation et de SF.
Écrit par de vrais auteurs.
Écrit par de vrais auteurs.
C'est pas exactement, c'est pas vraiment le sujet. Alors peut-être que je vous proposerai d'en parler.
Voilà,
c'est pas le sujet de notre conférence, donc je vous proposerai de. Oui, mais monsieur, c'est...
Pas,
ou ça, c'est, vous savez, c'est pas le bon, c'est pas le
sujet
de notre
problématique. Voilà. Et je viendrai d'ailleurs que.
Ouais, on peut peut-être en parler en privé, mais c'est pour nous, c'est pas la problématique, l'adversité. De toute façon, c'est
pas. Mais je vous répondrai.
Oui, voilà. C'est fini, hein, c'est ça. Il y a une dernière question. On peut prendre une dernière question.
Tout à l'heure, on avait commencé à effleurer l'idée que la science-fiction, pour qu'elle ait un peu de succès, était toujours un peu hybridée avec d'autres genres. Est-ce que justement, est-ce qu'il existe des vrais jeux de SF finalement ? Parce que Star Wars, c'est de la.
Ouais, c'est un peu de fantasy. Dune, c'est du commerce vénitien amélioré.
On a
une réflexion sur le futur, c'est-à-dire que par définition, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le futur, c'est ça et c'est sûr ?
On transpose quand même beaucoup des codes. Précis,
des codes et des visions.
L'idée
qu'on se fait aujourd'hui du futur, d'ailleurs, ça serait marrant de faire une histoire du futur, enfin, je veux dire une histoire du futur passé.
Passé.
Voilà,
oui.
les
grandes
idées. Le futur tel qu'on se l'est représenté au cours des âges. Il y a l'exemple de Robida sur la guerre au XXe siècle. C'est quelque chose de charmant. Enfin, charmant, pas forcément charmant parce que c'est la guerre. Mais quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est rien de véhicule plus vite que le futur.
Est-ce que ce type de futur, finalement, c'est pas un alibi pour explorer de nouvelles manières des archétypes et dans un nouveau cadre où ça va être de la découverte, mais finalement, c'est toujours un peu les mêmes archétypes, les mêmes personnages, la princesse, le barbare, etc. Sauf qu'ils sont dans des vaisseaux spatiaux au lieu des navires.
C'est pareil, Shakespeare, vous avez un cheval, et puis alors quand un type veut adapter Shakespeare un peu moderne, on passe le cheval par une mobylette. Bon, finalement, est-ce que ça change beaucoup de choses? Je sais pas, peut-être, oui, j'en sais rien.
Non, mais par contre, c'est intéressant de savoir si effectivement la science-fiction a créé des archétypes narratifs. D'elle-même, voilà. On sait que le polar le fait. Il a inventé le. Même si on peut trouver des. Voilà, même si on peut trouver une résonance avec le. On dit que les flics sont les derniers chevaliers, etc. Mais globalement, il y a des genres comme ça qui ont créé leurs propres matériaux identifiés. Quoi. Est-ce que la science-fiction a créé le pilote, mais le pilote depuis Ulysse, il est là. Est-ce que la science-fiction porte. Donc, je sais pas.
Est-ce qu'on sort du prêtre, du guerrier, du roi?
C'est compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que la science-fiction, pour moi, c'est quelque chose peut-être qui a commencé avec Jules Verne, on va dire, même si on bien sûr trouvait des choses beaucoup plus anciennes, et qui peut-être s'arrête maintenant, puisque nous sommes, si vous êtes d'accord avec cette idée, nous sommes en train de rentrer dans un monde dans lequel science-fiction en permanence existe réel. Donc peut-être que c'est quelque chose qui correspond à un impensé de la culture, des cultures technologiques qui sont développées après la révolution industrielle et que ça fait son temps. Ça a proposé une forme d'onirisme et d'explique, enfin de création de l'impensé de cette culture-là. Ça a servi à ça et puis c'est fini.
Ce que tu dis là, maintenant, en 2012, Asimov disait exactement la même chose en 5 ans.
Oui, c'est ce que j'avais demandé, s'il ne se posait pas les mêmes questions.
Ah, bah si, non, c'est pas qu'il se posait la question, c'est qu'il répondait comme Frédéric. C'est-à-dire que, effectivement, Asimov dit, mais finalement, le monde dans lequel aujourd'hui nous vivons, il dit ça en 50, est exactement le même que celui, enfin, et celui que décrivait. Enfin, il ne pensait pas forcément à Jules Verne, il pensait à des auteurs publiés par Gansbach ou des
gens. Oui, dans les années 20.
Dans les années 20, effectivement.
Les années 20. Donc, ça veut dire que la science-fiction continuera à jouer son rôle de miroir et d'impensé, quoi.
De toute façon, jusqu'au jour où il n'y aura plus de tout de suite.
Alors, c'est pas sur le post-apo.
Ouais, ce sera le post-apo. Voilà.
Merci. On a joué il y a un an, dans le 14e, c'est une partie organisée par Raphaël Granit-Cassianea qui est